Bon, bienvenue pour cette soirée d'approfondissement théologique qui va être consacrée à l'un des aspects particulièrement importants de la spiritualité protestante, à savoir la musique, le chant, l'hymnologie. Il suffit de venir au culte le dimanche matin pour voir la place que cela prend dans le déroulement du culte. Il faudrait compter, mais on ne doit pas être loin de la moitié, en fait, quand il n'y a pas de célébration de la scène. Quand il y a célébration de la scène, ça vient en plus. Donc,
oui.
On ne doit pas être loin de la moitié, je pense. Peut-être un peu moins.
Largement le tiers.
Bon, en tous les cas, un bon tiers.
Largement le tiers, oui.
C'est donc dire l'importance. Si vous avez vu le documentaire sur les protestants en France, vous aurez entendu Sébastien Fatt dire qu'on reconnaissait les protestants parce qu'ils chantaient des cantiques dans la rue. C'est peut-être plus aussi vrai de nos jours, mais ça indique l'une des caractéristiques de ce que fut en tous les cas la piété protestante dès ses origines, la place importante, peut-être aussi une place un peu en tension. On va voir ça avec Jean-Dominique Pasquet, qui est notre organiste titulaire après avoir occupé la tribune du Val-de-Grâce et du Temple du Saint-Esprit. Tu enseignes également la musique, notamment à l'école normale.
Oui, l'analyse. Je suis encore professeur, pas pour longtemps, je termine cette année, mais j'ai enseigné 40 ans à l'école normale de musique, où j'enseigne l'analyse musicale.
Et tu es président de la commission chant et musique de la Fédération protestante de France.
Là, ça s'appelle en fait la Fédération musique et chant du protestantisme français. C'est bien... Non, c'est dans les statuts, c'est du protestantisme français. Je les ai lus puisque le président, en principe, doit lire les statuts.
C'est dire la légitimité de ta présence pour cette séquence sur chant et musique. Et c'est dire aussi ta connaissance du sujet, ce qui vous permettra d'avoir toute liberté pour l'interrompre dès que vous le souhaitez. Pour toute question, demande d'éclaircissement.
C'est une... Ah oui, c'est mon souhait.
Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je serai vigilant. Dès que vous commencez à frémir un peu et lever un petit doigt, je vous donne la parole.
C'est important que s'il y a des précisions à vous donner, des choses que je le fasse, disons, pas attendre la fin de mon propos.
Donc, eh bien, maintenant, nous allons profiter de toi et de ton savoir, Jean-Dominique.
Voilà.
Donc, on a jusqu'à 21h30 ensemble.
Donc je voulais remercier les pasteurs de m'avoir invité à participer à cette soirée. Vous remercie aussi d'être là et d'être vous êtes déplacés. Je suis impressionné parce que la théologie, ça n'est pas, je dis pas que ça n'est pas mon fort, mais ça n'est pas mon métier. Et je suis beaucoup plus musicien, historien de la musique, etc. Je vais essayer. Simplement, je vous dirais que j'ai fait 5 heures de cours magistral aujourd'hui. Et bon.
Merci. Sinon, on se met de l'autre côté, on prend le micro.
C'est vrai que vous êtes là.
On va essayer de mettre un micro. Bon, on peut commencer sans micro et puis.
Alors, avant que vous parliez de la musique dans les différentes confessions protestantes. En fait, mon propos ce soir, ça sera surtout de. Il y aura trois points dans mon exposé, que vous interromprez, bien sûr, avec vos questions. Il y aura donc la musique luthérienne, puisque Luther est le premier, disons, grand réformateur. Ensuite, donc Calvin, la musique de Calvin. Et puis, j'ai tenu aussi à vous parler de l'Angleterre, qui est aussi un pays important pour la réforme, et c'est un pays assez étonnant par sa réforme. Donc, nous verrons ces trois pays. Et d'ailleurs, il y a, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des échanges entre ces pays. Puisque quand le catholicisme revient en Angleterre pendant quelques années, et que les catholiques sont présents, les protestants vont fuir, vont s'en aller parce qu'on les persécute et ils vont se retrouver pour certains à Genève et donc travailler avec Calvin notamment pour faire un sautier en langue anglaise. Donc, voyez-vous, il y a ces déplacements qui sont toujours intéressants à signaler. Donc, avant de vous parler de Luther, de la musique pour Luther, je rappellerai, dans l'Église romaine, dite catholique, le chant liturgique est en latin. Toujours en latin, à l'époque où nous parlons, bien, à l'époque de qui nous occupe, au moment où Luther va, faire sa réforme. Et alors, il y a en fait trois, dans la musique romaine, latine, il y a donc trois points importants. Il y a le chant grégorien. Le chant grégorien, il est chanté en principe sans accompagnement, il est monodique. Il vient bien sûr du Moyen-Âge. Il y a le chant polyphonique, donc toujours un des textes latins, et il y a bien sûr l'orgue, qui est accepté depuis fort longtemps, et même pour les grandes fêtes, les instruments. Là, si vous pensez à des partitions, des musiques de Monteverdi ou de Vivaldi, vous avez un ensemble instrumental ou un orchestre qui peut être là. Voilà donc pour l'Église romaine. Dans l'Église orthodoxe, le chant est monodique ou polyphonique, mais toujours a cappella. Il n'y a pas d'instrument, pas d'orgue, pas d'instrument permis dans les églises orthodoxes. C'est pour ça que, petite parenthèse, il n'y a pas eu d'école d'orgue florissante en Russie, puisque la religion orthodoxe ne tolère pas l'orgue. Voilà. Alors, le temps de la réforme, donc avec Luther, 1523, Luther fait une première tentative de réforme de la messe. Mais il l'a fait, cette réforme, il l'a fait encore en latin. Il est très important de dire que Luther sera toujours attaché au latin. Bien sûr, il veut que l'Assemblée chante en français, mais il restera attaché. Il restera
en allemand.
En allemand. Mais il reste attaché au latin. J'ai un texte là, j'aurais bien le retrouver dans le papier. Attendez, ça va être par là. Voilà, c'est ici. Et il dit lui-même ceci. C'est peut-être chez Basso que je vais le trouver. Là. En 1526, il disait donc « Cela me tient à cœur pour la jeunesse de ne pas faire disparaître le latin du service divin. » Et je sais que si le grec et l'hébreu avaient été plus répandus, il n'aurait pas demandé mieux que de voir célébrer aussi des services dans ces langues-là. Voilà à propos donc du latin qui sera maintenu dans la liturgie luthérienne pour certains moments. Bach a écrit des messes, je ne parle pas de la messe en si, mais ce qu'on appelle les messes brèves, et ces messes brèves comportent le Kyrie et le Gloria. Et elles sont destinées, ces messes brèves, au temple. Voilà. Donc, 1523, première tentative de réforme. Intéressant aussi de dire qu'il avait prévu, dès 1523, deux services liturgiques différents. Un service, en fait, pour les grandes églises et un service pour les petites églises et paroisses rurales. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il dit qu'il ne veut pas que le latin disparaisse. Voilà, donc pour... autre point chez Luther, voilà, c'est important. Son impératif, c'est, je prononce très mal l'allemand, je ne suis pas germaniste, « singen und sagen », chanter et dire. Quand dire, ça veut dire chanter et prêcher. En fait, voilà les deux piliers du culte luthérien, la prédication et le chant. Et pour lui, le chant et la musique est presque aussi importante que la prédication. D'ailleurs, il y a un religieux catholique qui était très opposé à Luther et qui a dit un jour qu'il avait fait plus de mal à la limite par la musique qu'il défendait que par sa prédication. En un sens, fait de mal à la religion romaine. Donc c'est important de voir cette place de la musique. Et puis, l'esprit Luther, c'est Freudenton, le ton de la joie pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Il y a cette joie qu'apporte la musique. Alors, Luther, en fait, on a dit... Luther était musicien. C'était un amateur dans le sens noble du terme. Il chantait, il jouait du luth et de la flûte. Il avait de très très bonnes connaissances de l'histoire de la musique et de la théorie musicale. Et on peut penser, et là je vais, que cette conception en fait de l'art, de la musique, c'est l'amour qu'il éprouve pour cet art, est une conséquence, ce que dit Alberto Basso dans son livre sur Bach, du sentiment religieux, de l'ardeur spirituelle qui animait sa conception du monde, inspirée de la doctrine augustinienne, dont il était un disciple. Vous savez que Luther était moine augustin. Et Basso dit... Et là, c'est un musicologue qui parle. Luther, par sa réforme, n'entendait pas révolutionner le monde chrétien, mais seulement le ramener à sa dimension d'origine, obscurcie par des siècles de construction dogmatique et de corruption des mœurs. Est-ce que vous pensez, messieurs les pasteurs, que c'est cela ? Sa réforme. Hein, parce que, bon, là, c'est l'avis d'Alberto Basso, d'un musicien. C'est intéressant de voir que ça explique pourquoi il n'a pas été radical. Dans les changements au niveau de la musique, et qu'il y a et que de nombre de Kirchenlieder, puisqu'il serait plus juste de parler de chant d'église, de cantique, si vous voulez, que de parler de chorale. Pour moi, et pour plusieurs musicologues, le chorale, c'est en fait la mise en musique, mais disons plutôt élaborée, par exemple à quatre voix, ou à en imitation avec des arbres. C'est ça le chorale, qui peut être aussi bien sûr harmonisé simplement. Mais il vaudrait mieux, je pense, employer pour les mélodies de cantique, dire le cantique tout simplement. Parce que c'est le Kirchenlied, le chant, on dit cantique de Pâques, le cantique de Noël, etc. Le terme chorale, on l'emploie pour désigner le chant. Mais n'oubliez pas au départ que Luther pensait, tout au début, que ce chant se ferait à l'unisson. Il n'était pas pensé au départ pour être chanté à quatre voix, ou même pour être harmonisé. Donc là, il y a une certaine parenté avec Calvin. Et puis très vite, je pense que le musicien qu'il était a pris le dessus, et tout ce qui était beau, en fait, musicalement, pouvait apporter et conduire vers la grâce divine. Et à ce moment-là, bon, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser. Au départ, même l'orgue, il n'aimait pas trop. Il y a certains textes où il dit que... Bon, après, il a changé d'avis.
Par rapport à cette histoire de réforme, moi, je me demande si la place qu'il va donner à la musique n'est pas la conséquence de la déception de sa première messe. Parce que quand il est ordonné prêtre, il se dit, en célébrant la messe, je vais toucher Dieu du doigt, grosso modo. C'est-à-dire qu'il va avoir une expérience sacrée extraordinaire. Il célèbre la messe, il est extrêmement déçu, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette expérience de sacré qu'il espérait. Et peut-être que de réinjecter de la musique, du chant, c'est en fait favoriser une expérimentation personnelle, qui est un grand thème luthérien, de pouvoir éprouver en son fort intérieur quelque chose qui est de l'ordre de la mystique ou de l'expérience du sacré. Oui. Peut-être qu'il se rend compte que le rituel de la messe ne fonctionne pas tel quel, et du coup il faut il faut se réapproprier de l'intérieur, et peut-être que le chant permet cela, parce que ça fait vibrer le corps, quelque chose qui est de l'ordre de cette expérience-là.
Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il y avait en Allemagne, donc avant Luther, et depuis assez longtemps, il y avait des chants. L'Église catholique tolérait que des chants religieux soient chantés en allemand, en langue vernaculaire. Donc, quand on dit que Luther a voulu faire chanter, bon, c'est vrai, mais il y avait déjà des tentatives chez les catholiques d'avoir des chants donc catholiques, mais en langue vulgaire.
Mais ce n'était pas des chants d'assemblée, si.
Ah si. Si, c'était...
Parce que dans l'Église catholique, il n'y avait pas tellement de chants d'assemblée à cette époque-là, quand même. C'était des chants de virtuoses, de chantres, de solistes.
Ah, pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des moments dans la liturgie dans catholique, d'avant Vatican II, enfin, c'était pas là, où quand même les...
Au XVIe.
Oui, même avant. Oui. Avant. Donc, c'est ça, voici ce que dit Basso. La proposition luthérienne d'un culte accordant une importance décisive au chant des fidèles n'est pas née de rien, mais fait opportunément usage du Kirchenlied catholique, déjà voisin dans sa forme, de l'idéal luthérien. Voilà. Donc, il y avait des chants qui étaient chantés en langue. Voilà. Alors, je vais vous lire un texte de Luther où il est assez connu, ce texte-là. C'est un texte, une préface d'un chant, d'un recueil de chants qui est paru en 1538. Et je vous lis le texte, il est important. « Maintenant, la seule affirmation que nous pouvons poser et que prouve l'expérience, c'est que la musique seule mérite d'être célébrée après la parole de Dieu. » Elle qui maîtrise et dirige les affections humaines, je ne parle pas de bêtes, par lesquelles les hommes, comme par leur maître, sont gouvernés et entraînés. On ne peut concevoir pour la musique, du moins selon nous, un plus grand éloge. En effet, que l'on veuille réconforter ceux qui sont tristes, ou bien effrayer ceux qui sont joyeux, rendre courage aux désespérés, fléchir les orgueilleux, apaiser les amoureux, adoucir ceux qui haïssent, et il est impossible d'énumérer tous ces maîtres du cœur humain, à savoir les affections, les éléments, les élans et ou les sentiments, auteurs de toutes les vertus ou de tous les vices. Alors, que pourrait-on trouver de plus efficace que la musique? Voilà, et ça résume bien ce que pense Luther de la musique.
Ce qui se rapproche un peu de l'usage que David avait de la musique pour calmer les maux de Saül.
De Saül, oui. La musique qui apaise.
Calmer les tourments.
Alors, nous allons... Une autre phrase de Luther... La musique est un beau et magnifique don de Dieu, tout proche de la théologie. Ancilla Theologia. Je ne voudrais pas renoncer au peu de musique qui est en moi pour quoi que ce soit de grand. On devrait constamment familiariser la jeunesse avec cet art. Et en fait, ce qui est important à dire, c'est que c'est non seulement au temple, donc le chant, une très grande importance, mais aussi dans les maisons et aussi dans les écoles. Il dit qu'il ne pourrait pas supporter un maître d'école qui ne connaît pas la musique. Et donc c'est très important de voir qu'il y a les trois endroits qui sont reliés. Et ça explique peut-être aussi pourquoi le tempérament allemand fait pour la musique, ou est-ce que c'est avant que Luther souhaite ces choses-là, ou c'était déjà dans l'air? Et c'est vraiment, ça fait partie de... Ça me semble très, très intéressant. Et en fait, les écoliers qui ont été formés à chanter, ce sont eux qui vont faire partie du chœur. Ils vont être chœur, choristes au temple aussi. Et les bourgeois, dans le bon sens du terme, les bourgeois également vont faire partie vont chanter. Et la connaissance musicale, la pratique de la musique est essentielle pour Luther. Alors, j'avais trouvé dans un petit livre déjà ancien des années 40, un texte Pierre Bourguet. Ce petit livre s'appelle Le protestantisme et Beaux-Arts. Et donc là, c'était à propos de Beaux-Arts, et pas de la musique en particulier. Et Pierre Bourguet disait: nous souvenons néanmoins que les passions d'Albert Dürer et les passions de Jean-Sébastien Bach sont des sommets de l'art luthérien. Nous inclinons à croire que celui-ci serait plutôt néo-testamentaire et christocentré. C'est-à-dire, ce qui est intéressant à dire, c'est que le Nouveau Testament va fournir un grand nombre de pièces musicales et un développement immense de la musique luthérienne. Parce que les librettistes des cantates, par exemple des cantates religieuses qui sont chantées ou qui pourraient être chantées pendant le culte, s'inspirent beaucoup plus en fait du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament. Alors que pour Calvin, et là je prends l'autre versant, je viendrai après à Calvin, Pierre Bourguet dit l'art protestant calviniste, donc il considère comme vétérotestamentaire et théocentrique. Et c'est une idée, moi, qui me séduit assez. Alors bien sûr, il ne faut pas dire que les calvinistes ou les réformés sont fixés uniquement sur l'Ancien Testament et inversement pour les luthériens, mais c'est peut-être quelque chose d'assez étonnant.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que Luther n'était pas très philosémite, déjà. Ça, c'est une première chose.
Oui, là, il a quand même pas mal dérapé, c'est moins qu'on puisse
c'est ça.
Dire.
Hein. Contrairement à Calvin. Et, oui. Et pour le coup, c'est vrai que Luther développe un christocentrisme, c'est-à-dire qu'à la suite de Paul, il ne veut que prêcher Jésus et Jésus crucifié. Et donc, Jésus-Christ, pour lui, va être le point de convergence de toutes les prédications. Et d'ailleurs, il y a une représentation assez connue où on voit Luther en train de prêcher en chair. Et entre Luther et l'Assemblée, il y a un Jésus crucifié. Et c'est ce Jésus crucifié que Luther désigne du doigt.
Oui,
ce qui indique bien le phénomène de convergence christocentrique de la théologie luthérienne, qui du coup se traduit bien dans les chants.
Oui. Bon, je vais en venir après. On parlera après de Calvin, qui lui, à la différence de Luther, l'ouverture, la grande ouverture à la musique de Luther et cette passion impulsive pour la musique qu'il a, va favoriser donc toutes les formes de musique liturgique et religieuse. Du simple prélude de chorale pour orgue jusqu'au motet, jusqu'aux passions, la création musicale d'esprit luthérien ne cessera jamais. Jamais. Avec Calvin, qui limite, donc pour le chant au temple, qui limite au psaume, 150 psaumes. Il y a quoi encore ? Il y a les 10 commandements, le décalogue qui est chanté, le cantique de Siméon. À part cela, il n'y a pas d'autres chants. Donc là.
Notre Père n'est pas encore mis en musique ?
Non. Non. Notre Père n'est pas mis en musique. On n'a pas dans le. Donc c'est très limité. Et une fois que les psaumes ont été mis en musique, eh bien, il n'y a plus de possibilité, il n'y a plus de création nouvelle. On peut toujours prendre, bien sûr, le texte et éventuellement la mélodie du psaume pour composer quelque chose, mais on ne peut pas en sortir. Et donc il n'y a pas de création musicale. Et puis autre chose ne va pas favoriser, en tout cas pour la France, le développement de la musique, disons, calviniste, réformée, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Là aussi, les protestants s'en vont dans les pays du refuge, s'en vont en Hollande, en Angleterre, en Hollande, en Suisse. Et c'est justement en Hollande et en Suisse qu'on va trouver, surtout en Hollande, je parle là du XVIIe siècle, qu'on va trouver une création musicale, disons, calviniste. Je pense à Swillink, qui écrit de fort belles pièces d'orgue. Mais attention, les pièces d'orgue de Swillink ne sont pas faites, et là, vous m'en voudrez peut-être ne pas venir passer à Calvin comme cela, mais ne sont pas du tout faites pour l'Église. Les pièces d'orgue de Swillink ou d'autres compositeurs comme Van Noort, pièces sur les psaumes, sont faites pour être jouées en maison ou en concert, mais pas pendant le culte. L'orgue n'est pas autorisé. Voilà. Ni la polyphonie non plus. Et c'est vraiment contraignant, en fait.
Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les pays du refuge ou c'est spécifique aux Pays-Bas ? Avec les réformés qui remettent un petit peu d'austérité.
Ah ben non, c'est les réformés qui sont dans les. Et en fait, pardon, je pense que la Hollande est plutôt calviniste.
Oh oui, non mais donc c'est un calvinisme qui peut être dur. Il n'y a pas que Pierre Bayle et Jurieu. Il y a aussi des courants très orthodoxes. Et peut-être que sur le plan musical, ça se traduit aussi une sorte d'orthodoxie musicale.
Calvin avait peur qu'avec différentes voix, on s'éloigne de Dieu parce qu'on écoute ça, trop la bonté. Enfin, je crois qu'il y a une histoire comme ça.
Oui. Hein? Oui. Alors, vous me pardonnerez, je vous ai parlé un peu de Luther, maintenant j'ai besoin de parler de Calvin, et après on reviendra peut-être sur la production musicale luthérienne. Petite parenthèse encore à propos de... Regardez le 19e siècle. Les grands musiciens allemands qui ont écrit pour l'Église. On a des chorales d'orgue de Brahms, on a des motets de Brahms, on a des motets de Mendelssohn. Encore que Mendelssohn, c'est un cas à part. Mendelssohn, aussi, petite parenthèse, vous me pardonnerez, j'aime beaucoup parce que, bon, vous savez qu'il était d'origine juive, hein, puisque son grand-père était philosophe. C'était Moïse Mendelssohn. Donc, les parents de Mendelssohn s'étaient convertis au luthéranisme, comme on faisait en Allemagne, et Mendelssohn était luthérien. Et Mendelssohn a écrit, et ça on ne le sait pas, a écrit des pièces, pas beaucoup, mais pour la synagogue, il a écrit aussi des pièces pour l'Église catholique, et en latin. Et bien sûr aussi des chorales, des pièces sur les chorales. Donc c'est vraiment un musicien d'un écuménisme étonnant et fort sympathique. Alors, ce que tu disais, Nicole, est tout à fait juste. Je vais revenir peut-être à un autre réformateur qui, lui, était beaucoup plus radical que Calvin, c'est Zwingli. Alors, Zwingli, lui, c'est assez... ça fait un peu... Je ne vais pas rire, mais... C'est théorie, vous me pardonnerez, parce que mes petites... Voilà. En Suisse, donc, Zwingli... se fonde pour la musique dans le culte sur un passage de l'Épître aux Colossiens 3:16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et Zwingli retient ce mot, incordibus, dans vos cœurs. C'est-à-dire que ça veut dire, il n'y aura pas de chant au temple. Pas de chant, et même pas de récitation de psaume. Récitation d'un psaume, ça lui paraissait dangereux à Zwingli. Car, disait-il, le recueillement ne s'accorde pas bien longtemps avec le mouvement des lèvres. La seule part laissée, c'est la prière silencieuse, l'assemblée. Voilà, donc l'assemblée ne peut ni chanter, ni dire le son. C'est radical. C'est très radical. Calvin est beaucoup plus favorable à la musique. Il n'est pas contre la musique, Calvin. Les premières réunions évangéliques donc, ne comportaient pas de partie musicale. Et Calvin se préoccupe dès 1537 de l'introduction du chant dans l'église de Genève. Et d'ailleurs, il y a une préface au Psautier, 1542-1543, et je pense que c'est ça. Si vous avez le petit texte que je vous ai... Et ça, c'est dans Louange et Prière qu'on trouve cette petite introduction. Et vous, le texte que vous avez sur la droite. Et là, vous pourrez le lire et le méditer. Voilà. Et il dit qu'il n'y a pas mieux que les psaumes de David qui lui ont été inspirés par le Saint-Esprit pour louer Dieu. Voilà.
Ce qui, dans une certaine mesure, contredit ce que Luther proposait, puisque Luther voulait une sorte de prédication très positive. Or, les psaumes sont aussi chargés d'éléments extrêmement négatifs, douloureux, d'humilité, etc. Et donc, c'est vraiment une autre pastorale, en fait, qui se dégage à travers les psaumes que celle que préconisait Luther dans les chants.
Oui, oui. Je pense que c'est leur conception, leur théologie est différente, c'est évident. Donc la musique ne doit être ni légère ni volage, mais modérée pour emporter poids et majesté convenable au sujet. Et en fait, la musique calviniste jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 19e, sera monodique. Il n'y aura pas d'accompagnement. Il y a une fonction, celle de chantre, et le chantre entraîne l'assemblée. Mais il n'y a pas d'accompagnement.
Donc on est bien d'accord, c'est pas le pasteur qui entraîne l'assemblée.
Non, c'est l'assemblée qui entraîne le pasteur.
Tout va bien.
Voilà. D'ailleurs, chez les le chant grégorien, chez les catholiques, moi je me souviens même encore en Bretagne quand j'étais jeune, il y avait un chantre qui s'était chanté de façon monodique, a cappella, il y avait un chantre qui entraînait l'assemblée. Il y avait un instrument tout à fait bizarre qui était là aussi, qui s'appelle le serpent. Le serpent, forme de... Hein, et cet instrument était là, ça avait un son absolument horrible, mais c'était suffisamment puissant pour bien soutenir. Mais il n'y avait pas d'accord, pas d'harmonie. Hein, c'était chanté comme ça. Donc, Mais le principe du chantre a existé, je vous dis, je pense qu'à Paris encore, ça devait se faire au début 19e. Je ne pense pas qu'il y ait eu des orgues...
Si, il y avait un orgue à Saint-Louis du Louvre, mais c'était peut-être l'influence des luthériens, en fait. C'était
oui.
Un peu œcuménique.
Oui.
Mais
oui.
Il y avait un orgue à Saint-Louis du Louvre, donc en 1789, et quand ils ont déménagé ici...
Il est venu là, le petit coucou, oui. 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 Il est venu. Oui, mais là je parle jusqu'au début du 19e siècle.
Les protestants, ils se sont entraînés dans les ambassades, finalement. Peut-être c'était moins triste, non, je ne sais pas.
Donc, le chant monodique des 150 psaumes, traduit par Clément Marot et Théodore de Bèze. Bon, ça, c'est les. Et c'est vraiment dommage. Moi, j'ai toujours regretté. Vous me direz, c'est normal d'avoir une paraphrase en langue moderne, mais elle est tellement savoureuse là. Et je pense qu'on aurait pu quand même garder pour certains, en adaptant certains mots, mais on aurait pu garder les textes de Marot, de Bèze, qui ont une force que n'ont pas les, par exemple, les textes de Chappal, qui souvent sont des paraphrases. Bon, pas toujours d'accord. Enfin bon, là, c'est autre chose. Donc, les mélodies du psautier huguenot, c'est important d'en parler, proviennent pour. Très peu de mélodies proviennent de mélodies préexistantes. Il y a peut-être deux ou trois chansons profanes qui ont donné, dont le timbre, c'est-à-dire la mélodie a été utilisée pour le chant et le psaume. Il y a peut-être deux psaumes, ou un, en tout cas Berger d'Israël écoute, c'est lequel celui-là?
80.
Oui, 80. Et la mélodie est inspirée par le victimé Pascal Ilaudès. Mais c'est moins net au niveau de la répartition des notes par rapport au texte. C'est moins net que de. Que
le... Tout le monde comprend la référence.
Alors, le victimé Pascal Ilaudès, c'est une chant latin, latine. C'est la séquence du jour de Pâques. Et la mélodie, le début de cette séquence, a servi comme d'ailleurs pas mal de mélodies grégoriennes, a servi à Luther pour un choral, Christ lag in Todesbanden, Christ vit dans l'âne de ma mort, qui est un très beau choral, le choral de Pâques. Et donc là, je voulais dire qu'il y a un psaume qui est aussi inspiré par cette. La plus grande part des mélodies du psautier français sont composées, donc par. Il y a trois compositeurs, Loïs Bourgeois, Guillaume Franc et Pierre Davantès, d'ailleurs qui ont tous travaillé plus ou moins à Genève aussi. Je ne vais pas vous détailler l'élaboration du psautier. C'est assez compliqué. Il faut parler du séjour. Oui, c'est Bucer qui avait nommé, je pense, Calvin à Strasbourg. Une paroisse des étrangers, je pense. Des Français. Et c'est là que Luther a entendu des psaumes. Qu'il a eu Calvin a entendu des psaumes, pardon, et qu'il a eu envie de... Et d'ailleurs, il y a un des compositeurs, Matthias Greiter, qui a écrit une fort belle mélodie. Alors, à ce moment-là, c'était pour un autre psaume, donc à Strasbourg, et cette mélodie, ça sera la mélodie, ensuite, dans le psautier de Genève, ça sera la mélodie des deux psaumes, du psaume des batailles et du psaume 36.
C'est la même. Voilà. D'ailleurs, la rumeur dit que Calvin a commencé à écrire des psaumes, enfin à les paraphraser, et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait quand même pas le talent de Théodore de Bèze.
C'était pas bien du tout.
C'était pas exceptionnel.
Et il avait commencé et puis il a retiré.
Il a eu l'humilité de se dire on peut mieux faire.
Et c'est vrai. Et pendant que j'y pense, si ça passionnait certaines personnes d'entre vous, j'ai trouvé cet article qui est merveilleusement bien fait, mais c'est beaucoup plus. C'est le psautier de Jean Calvin, c'est la revue réformée, et j'ai vu ça sur Internet, c'est très intéressant, si vous, je ne veux pas vous en parler trop longuement, mais pour toute l'élaboration du psautier, ça s'appelle le psautier de Jean Calvin, Genèse, rayonnement et enjeu. Vous apprendrez là des choses, vous pouvez le prendre sur Internet si ça vous intéressait. Donc. Bon, je me suis laissé un peu perdre là, dans le psaume... Donc, à partir de 1539, le psautier s'élabore. Il sera terminé, en fait, en l'édition définitive des 150 psaumes sera faite en 1562. Et vous savez que les deux, pas traducteurs, il faut dire les deux... auteurs de paraphrases, parce que ce ne sont pas des traductions réellement, sont Clément Marot, donc qui a fait la première partie, 49 psaumes, Il est mort en 1544 et c'est donc Théodore de Bèze qui fera les 101 autres pour le texte. Alors, avez-vous des questions sur... parce que pour Calvin, je ne peux pas développer plus. Ben, on pourrait. Mais au niveau musical, une fois que les psaumes ont été... Alors, on peut peut-être parler quand même des compositions artistiques qui ont été faites par les deux grands compositeurs français de la Renaissance, Goudimel, bien sûr, et Claude Lejeune. Goudimel, d'ailleurs, sera victime de la Saint-Barthélemy à Lyon, je crois. Alors, Goudimel n'a pas du tout inventé de mélodie de psaume. Il n'est pas mélodiste des psaumes. Simplement, il les harmonise, ce qu'on appelle en contrepoint note contre note, c'est-à-dire, vous savez, les psaumes sont syllabiques dans leur mélodie, on a une note par syllabe, et donc ce qu'on appelle un contrepoint note contre note, c'est-à-dire globalement un accord sous chaque note de la mélodie. Alors d'autres élaborations sont possibles, qui sont plus contrapuntiques, plus on parle dans ce cas-là de contrepoint fleuri, mais ce que fera toujours Goudimel, c'est garder ce qu'on appelle, c'est un terme un petit peu savant, le cantus firmus, c'est-à-dire la mélodie empruntée en un sens, puisque ce n'est pas Goudimel qui l'a inventée, cette mélodie du psaume, elle sera toujours présente, même dans la construction élaborée et fleurie. Nous écouterons tout à l'heure quelques exemples où on peut même écouter maintenant. Voilà. Alors je vous propose d'écouter, et c'est en fait, c'est un disque qui a été enregistré, un CD qui a été, ou là, peut-être la mise en sur CD d'un disque qui avait été fait par le Chœur de l'Oratoire de Lourdes, dirigé par Florian Hollard. Et c'est une belle réalisation, bien sûr, on peut dire qu'elle a vieilli, comme tout, mais je ne suis pas pour critiquer toujours les choses anciennes, et pour dire que c'est la dernière chose qui a été faite et qui est la meilleure. Je me pose souvent à des collègues ou des étudiants baroqueux qui me disent « Ah, ben, je dis non, ben, pourquoi ça serait ça ? Vous n'avez pas la vérité et vous n'avez pas... » Bon, alors, c'est très bien d'avoir des idées, mais ce n'est pas toujours la dernière version. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai réécouté l'autre jour pratiquement intégralement CD. Je trouvais qu'il y a de très belles choses. Alors, on va écouter dans le... mis ça à part. Je sais que j'avais mis ça effectivement. Parce que... Voilà, c'est là. On va écouter peut-être le psaume de 33. Réveillez-vous. Alors, si on lit le psaume 33 dans la paraphrase de Marot, c'est « Réveillez-vous, chacun fidèle, menez en Dieu joie hors endroit, louange est très séante et belle en la bouche de l'homme droit. Sur la douce harpe, pendue en écharpe, le Seigneur loué. De lutte d'épinette, sainte chansonnette, à son nom joué. » Sainte chansonnette, le mot chansonnette, c'est pas à prendre dans le sens de nos jours. On écoute donc c'est plage 10, tu sais comment on écoute les plages.
Je comprends faire comme ça.
Ouais. Note contre note, ici, le Donc, musique faite pour être chantée est-ce maison, et pas au culte. On est bien d'accord.
J'ai te demandé, est-ce qu'il y a une doctrine en matière de rythme? Parce que d'un organiste à l'autre, on peut dire qu'il y a plusieurs écoles sur quel devrait être le rythme, le tempo, oui, je vous laisse le soin du bon vocabulaire, le tempo pour chanter les psaumes. Il me semblait, oui, que, je vais certainement dire une ânerie, mais que grosso modo, la blanche valait un temps.
Ah oui, bon.
Au niveau du tempo.
Si on veut. Alors là, je réponds. Les mélodies du psautier possédaient des caractères accusés, strictement syllabiques. On parle des mélodies, n'est-ce pas, hein. Elles n'utilisaient que deux valeurs de durée en notation moderne, la blanche et la noire. La blanche représentant l'unité de battue. Donc le tactus, c'est la blanche. Enfin, l'équivalent, ce qu'on appellerait la brève. En termes, on ne disait pas la blanche à cette époque-là. C'est bien ça, cher ami. C'est la brève. Non. C'est modéré quand même. Hein.
Un tout petit peu plus lent que ce qu'il y avait là.
Oui, c'est pour ça que.
Mais c'est en gros.
Alors on peut se poser la question, est-ce que le texte aurait. Le texte qui est chanté, est-ce que le sens du texte influe sur le tempo? Personnellement, un psaume joyeux, moi je n'ai pas envie de le prendre lentement. En revanche, certains psaumes. Celui-là, je trouve qu'il a, il est plutôt un tempo moyen pour moi. Je ne le prendrai pas trop vite. Et d'autres psaumes, les psaumes dits de pénitence, là, à mon avis, on ne peut pas les prendre. Ça me semble logique que le sens du texte conditionne le tempo. Hein. On ne veut pas. Mais comment étaient chantés réellement les. Ça, on ne saura pas. Hein. Ça, c'est. Même si les personnes disent qu'ils savent, je ne sais pas s'ils ont fait tourner les tables ou ce qu'ils ont. En tout cas, on ne sait pas.
Et dans les maisons, on chantait à plusieurs voix.
Oui. Et oui. Ça, il y a des tableaux de la Renaissance ou des. Bon, l'iconographie est tout à fait étonnante. On voit sur une table, il y a un pupitre et chaque côté, on peut mettre la partition comme ça. Et on voit les gens se font face, n'est-ce pas, et chantent comme ça. Oui, c'était. Ah oui, le chant et la musique et la maison étaient. C'est très, très, très important. Très important. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai deux psautiers. On apprend à chanter. Oui, il y a un petit solfège. Oui, c'est tout à fait étonnant. Et ça montre que.
Mais c'est des chants qui étaient faits en famille, parents et enfants, ou entre voisins, ou c'est quoi, j'ai
ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce que. Donc, sur des mélodies qui auraient été profanes, alors.
Pendant les guerres de religion, le fait de se cacher pour tout ce qui avait un côté cultuel est plutôt bien attesté. Par contre, après la Révolution, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Ou alors c'est une résurgence des temps anciens, et c'était le premier dimanche de septembre.
Non, mais au 19e, il y a eu peut-être quelques périodes de terreur blanche où effectivement les protestants ont quand même été un peu ennuyés, mais c'était assez ponctuel quand même. Quoi ? Non, pas en 1870. Non, mais par contre, je crois que les gens étaient plus musiciens. Peut-être qu'il n'y avait pas la télévision, je ne sais pas, mais en famille, par exemple, il y avait, ça arrivait que, bon, il y avait presque des petits quatuors familiaux, en fait. Et donc, dans ces familles,
oui.
Je pense, huguenotes, c'est vrai qu'on pouvait avoir une véritable éducation musicale. Il y en a un qui jouait du violon, l'autre qui jouait de viol de gamme, du clavecin, ou je ne sais pas quoi, ou du luth. Et il y avait cette pratique familiale de la musique.
La pratique est maison, oui, c'est... Alors, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que, par exemple, les musicologues allemands considèrent que les mélodies du psautier français sont aussi valables, aussi belles que le choral. Et ils déplorent même qu'il n'y ait pas eu ce développement autour de... Mais c'est dû au fait que au temple, il n'était pas possible de faire de la musique autrement qu'en chantant une seule voix. Donc il n'y a pas eu de développement. Il y a eu un arrêt de la production. Et c'est curieux de voir que c'est plus en Suisse au XXe siècle, enfin disons deuxième, peut-être fin du XIXe et XXe siècle, qu'il y a une école, l'école genevoise, avec des organistes ou des compositeurs qui ont écrit sur les psaumes, qui sont servis des psaumes. Je pense à Henri Gagnebin, qui était organiste, qui était directeur du conservatoire de Genève, qui a laissé un corpus de pièces d'orgue sur tous les psaumes. Et puis il y a Bernard Reichel, il y a également Pierre Segond. Et donc il y a cette école genevoise. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs utiliser leur musique, bon, parce qu'on c'est sur nos psaumes, enfin c'est les leurs aussi bien sûr. Hein. Et il y a également, mais c'est moins connu, il y a l'école hollandaise. Et là même, il y a des œuvres pour orgue très intéressantes de Jan Zwart, un compositeur post-romantique, enfin dans l'esprit. Il a écrit beaucoup de pièces sur les psaumes. C'est aussi intéressant. Puis, dans ces pays-là, il y a eu peut-être plus de... Curieusement, en France, les organistes réformés n'ont pas beaucoup produit. Alexandre Sellier a laissé trois grandes paraphrases superbes sur les psaumes, qui sont des fantaisies plus de concerts. Autrement, il a laissé un psaume aussi, d'ailleurs, que mon ami et collègue Kurt Luders a enregistré. Marie-Louise Giraud a laissé quelques psaumes pour orgue, mais elle était tellement douée pour improviser sur les psaumes qu'elle improvisait plus qu'elle ne composait. Mais il y a quelques psaumes. Et puis,
Arthur Honegger.
Honegger, il n'y a pas de choses pour le... Je parle de la musique au niveau du culte. Au niveau du culte. Il a composé trois... Pendant la guerre, trois psaumes pour chant et piano. Les deux premiers sur des textes de Théodore de Bèze, je pense, les trois d'ailleurs. Les deux premiers sont mélodiquement son invention, et le troisième c'est un canon sur pam 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 pam. Voilà. Et il écrit ça en pleine occupation. C'est très très beau. C'est trois psaumes pour chant et piano de Honegger. Mais il n'a pas laissé pour le temple. Il n'a pas laissé d'œuvre. Voilà. C'est pour ça que moi, bien modestement, et parce que j'avais envie de le faire, j'ai entrepris, quand j'ai été nommé à l'oratoire, d'écrire des pièces d'orgue sur les psaumes, des pièces courtes, mais bon, voilà, comme ça, ça c'est... Parce que ces mélodies sont tellement belles, on ne peut pas écrire des pièces dessus, enfin, quand on est... Alors pourquoi en France il n'y a pas eu de...
Ça va nous le dire. Hein.
Moi, je sais pas. Je me pose la question, est-ce que les... Il n'y avait pas de...
Là, par exemple, quand tu composes, est-ce que tu te dis que toi aussi tu participes de la prédication ou c'est sur un tout autre registre?
C'est compliqué. Hein.
Dis-nous un peu.
Qu'est-ce que je peux dire? Oh, c'est évident que c'est pour que ça prenne place dans le culte. C'est évident. Hein. De toute façon, un compositeur, il n'écrit pas pour mettre la musique dans l'armoire. Hein. Il écrit pour que ça soit joué ou pour le jouer. Bon, moi, je le pense. Bien sûr, je le pense pour le culte. Et... Oui, bien sûr.
Ce qui veut dire que vous, pasteur, donnez toujours à l'organiste le sujet de votre prédication pour que le...
Non.
Non, mais dans la liturgie, ça se place quand même à des moments où, voilà, c'est soit un moment méditatif, soit un moment de louange, soit... Donc c'est vrai que ça peut reprendre ces moments liturgiques, en fait.
Et donc, ma suite française sur les psaumes, pièce courte, j'ai écrit aussi cela parce que j'ai remarqué que pour des services funèbres ou même des mariages, baptême, quelquefois les gens voudraient bien avoir une pièce, entendre bien la mélodie, mais ils ne vont pas chanter ou il n'y a pas beaucoup de mots, ils ne savent pas. Et là, comme je me suis imposé toujours que la mélodie soit très, très présente, qu'on la reconnaisse, ça permet de jouer la pièce en faisant entendre la mélodie du psaume. Et donc, comme ça, ça peut parler. Mais c'est vraiment liturgique, hein, ce que j'ai voulu faire.
Mais est-ce que ce serait de la liturgie qui va jusqu'à la prédication? Quand tu dis, il faut que ça parle, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de l'homélie, de la prédication? Ou est-ce que c'est juste une question de sentiment, d'effet sur le tempérament? Ou est-ce que ça raconte une histoire?
D'abord, il y a le texte du psaume. Je ne peux pas écrire un lamento sur un psaume joyeux, sur frapper dans vos mains, ça serait ridicule. Tu écrirais plutôt un carillon ou une pièce. Si le psaume est. Je pense au psaume 86, là, c'est le dernier. J'ai écrit deux qui sont sombres, c'est le 130, 86. Ben, ceux-là.
À mon cri, prête l'oreille.
Ouais. Ça, ben, la musique c'est de prolonger le texte. C'est pas...
Oui, donc c'est une méditation sur un texte biblique. C'est vrai que c'est pas loin, j'allais dire, du travail fait sur une prédication.
C'est aussi ça peut aller un petit peu plus loin. Bon, c'est si je non pas qu'elle prédit non. Ce que je voulais dire, James, c'est que quand j'ai la chance d'avoir les cantiques et pas assez tôt, je peux me dire oh je vais pouvoir jouer mon psaume 92 ou bon si j'ai pas si j'ai envie de sortir un de mes psaumes de pénitence, à ce moment-là, je vais le mettre plutôt, même si on ne le chante pas au culte, mettre à un moment, ou dans un temps liturgique, ou à un moment de... Voilà. Donc c'est ça aussi, ils prennent place du point de vue liturgique par leur caractère musical, si c'est sombre, si c'est joyeux, si c'est... Mais l'idéal, c'est ce qu'on avait pu faire une fois, je t'avais dit... Ah, j'ai envie de jouer mon psaume 84, hein, on a la marcia, au début du culte, et puis je te dis, est-ce qu'on peut... on va chanter le psaume 84 après, on trouve le psaume. Ça, pour moi, c'est le bonheur, parce que il y a... quand je peux trouver... j'arrive pas tous les dimanches, mais quand je peux trouver une pièce d'orgue qui correspond à un des cantiques, je la prends. Je suis toujours heureux, bon, sur Célébrons l'Éternel, sur une pièce là-dessus, je suis heureux de la jouer. Ou, alors, ça peut être, si le cantique est chanté, ça peut être à la sortie que je joue. Mais ça sera quand même en résonance, un rappel de ce qui a été. Je crois que c'est, pour moi, c'est important. En tant qu'organiste liturgique, je ne peux pas Bon, je suis désolé de parler de moi, mais tant pis, hein, vous m'avez voulu. Vous m'avez voulu.
Mais c'est pas pour toi, c'est pour tous les organistes.
Non. Il y a des organistes, qui arrivent, ça va être très bien joué, mais ils ont leurs pièces, mais bon. Quand on est organiste liturgique et qu'on joue régulièrement, moi je joue 3 dimanches sur 4 à peu près, hein, ben, pour moi, et c'est peut-être ça ma prière, c'est peut-être ça ma prédication, c'est de trouver la pièce qui va. Et il y a un moment qui est merveilleux pour moi, c'est la pièce d'orgue après la prédication. Et que de fois, en jouant, je sens qu'il se passe quelque chose. Je sens. Il y a quelque chose qui passe. Et d'ailleurs, il y a des paroissiens qui ont la gentillesse de me le dire, après en disant, ah là, on a ces... Et ça fait plaisir, parce que c'est... Maintenant, on va revenir, parce que je n'ai pas oublié qu'il y a l'Angleterre aussi qui va en parler. Est-ce que vous avez des questions sur Luther, sur Calvin, sur la place? N'hésitez pas. Hein.
Est-ce que le mouvement du réveil, tu l'abordes avec l'Angleterre? C'est-à-dire tous ces cantiques qui arrivent au 19e, qui sont quand même d'un autre style?
Alors, je vais l'aborder en parlant de John Wesley.
D'accord.
Parce que c'est lui, avec le mouvement méthodiste, c'est lui qui va... c'est au 18e, c'est dans la deuxième moitié 18e, mais ça conduit déjà à ce qu'on va appeler en Angleterre le mouvement d'Oxford. Et ça, je vais en reparler parce que ça peut expliquer certaines choses d'étonnantes dans la... Alors, vous avez des questions sur Luther et sur Calvin, j'espère. Non ? Ah ben, pour qu'on se dépêche.
Comment est-ce que la musique de Luther s'intégrait dans le culte ? Parce qu'apparemment, il y avait, par exemple, pour les passions et ces trucs-là, enfin les passions, Saint-Jean de Saint-Mathieu, il y avait la première partie qui jouait, puis il y avait une prédication.
C'était très long, oui. Parce que je crois que
Saint... C'est pareil pour les notaires.
Elle fait combien, Saint-Mathieu ? C'était pas 4, 3 heures ?
3 heures, ouais.
3 heures plus le sermon le vendredi saint, ça faisait...
C'est un vrai chemin de croix.
Ah bon ?
On l'aura peut-être l'an prochain, d'ailleurs.
Mais c'est vrai que c'est... Alors, j'avais noté aussi quelque chose. Il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que... voilà. Luther laisse une très grande liberté aux églises pour organiser liturgiquement le culte. Et donc, la production des musiciens est très importante parce que on laisse une liberté, justement, ça répond peut-être à votre question. Les messes évangéliques, des messes encore latines peuvent être chantées, hein. Des motets utilisant des mélodies de chorale harmonisée, les cantates, les passions en musique, chorale, fantaisie pour orgue, etc. Donc Luther laisse une liberté. Pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur...
Angleterre.
Alors, l'Angleterre. Oh, mais il y a quand même quelque chose que j'ai oublié en Allemagne, c'est ça. Attendez, parce que je m'en souviens. Peut-être que vous allez dire un petit mot là-dessus, monsieur le pasteur. Le piétisme, c'est un mouvement luthérien. Et c'est intéressant parce que c'est quand même déjà la sensibilité qui est entrée en jeu. D'ailleurs, il y a eu une bataille, une opposition entre les orthodoxes luthériens et les piétistes. Et ce mouvement-là me semble progressivement conduire, en Allemagne en tout cas, ce qu'on peut appeler un pré-romantisme, quelque chose comme ça. Vous avez des idées là-dessus sur les...
Ça vient pas plutôt de l'Europe centrale avec les frères moraves, du côté de l'actuelle République tchèque, etc. Une sorte de...
Oui.
Je dis pas de contamination, mais...
Si. Si, ça vient des frères moraves, parce que justement aussi, le mouvement méthodiste, les Wesley, oui, sont marqués par les frères Morat. Mm. Ça, c'est très influencé par les frères Morat, donc oui, c'est évident. Alors, en Allemagne, ce qui est intéressant à noter, c'est que, bon, il y a liberté de... les compositeurs écrivent des chants, des cantiques, des chants religieux, des chants spirituels, et ne sont pas obligés de prendre des textes d'écriture. Ils peuvent prendre des... Bon, des paraphrases, certes, mais ils peuvent aussi... Donc, on va voir les... Dans la deuxième moitié, fin du XVIIIe siècle, de grands poètes allemands écrire des textes poétiques qui seront, qui viendront des textes de chants spirituels ou des textes de cantiques. Alors je veux citer deux poètes, Matthias Claudius, qui écrit un chant du soir, qui était un chant religieux. Claudius est mort en 1815, il écrit ça en 1779, un Abendlied, qui est un chant religieux, qui est un cantique. Et Matthias Claudius, c'est le poète qui a écrit La jeune fille et la mort, sur lequel sur ce poème que Schubert a écrit ce merveilleux livre. Et puis vous avez, alors c'est peut-être moins connu, un très grand poète qui s'appelle Novalis, qui est mort en 1801 et qui laisse 15 cantiques. 15 chants spirituels qui sont vraiment des cantiques. Et ça, c'est intéressant de voir que, à côté des pasteurs qui écrivent des textes, les poètes vont arriver. Et ça, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et, alors.
Pour répondre à ta question, peut-être que ce courant piétiste, c'est effectivement ce qui va conduire à ce romantisme allemand où il y a une sorte d'énergie de la nature qui est convoquée dans la piété. Et alors, très curieusement, c'est un phénomène comparable à ce qui se passe aux États-Unis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des connexions entre les poètes américains et les poètes allemands, comme on en trouve entre les philosophes américains et Nietzsche, par exemple. En fait, on apprend que Nietzsche est très inspiré par Emerson. C'est un de ses philosophes de prédilection, même. Et donc, ils font les transcendantalistes. Et il y a, en fait, une sorte de connexion entre cette énergie que l'on trouve dans la nature, une sorte de dégagement de l'institution, une sorte de dégagement de la révélation consignée dans les textes bibliques, la capacité de l'individu à avoir une expérience personnelle sans médiation. Et on le voit aussi dans la peinture, avec une sorte de continuité entre la nature avec montagnes, nuages, etc., et l'homme.
Et je pourrais en venir à la musique, je pense à... tu vois le Carl Philipp Mengelbach, Carl Philipp. Bon, comment s'appelle cette théorie, enfin, ce mouvement-là, un nom à rallonge, là, tu sais, moi, je... Voilà, alors que tu peux répéter. Moi, je n'ai jamais pu... Le style sensible. Voilà, un des fils de Bach, Carl Philipp, il écrit, il y a toute une théorie là-dessus, qui est reliée à Klopstock aussi. Et donc, c'est vraiment dans l'air, cette... C'est pas le dernier fils, hein, c'est Jean Chrétien le dernier. C'est...
Ouais. Après, il y a peut-être des poètes comme Oderlin aussi qui sont un peu en dialogue avec les auteurs.
Oui, est-ce que religieusement, le dernier, je ne me suis pas penché sur... Novalis, je savais, mais...
Ah, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il ait composé des psaumes, c'est vrai, c'était pas le genre, mais qu'il ait été source d'inspiration dans son rapport à la vie, peut-être, ouais.
Enfin, en tout cas, là, deuxième moitié 18e, on change. Il y a quelque chose ça change. Le sentiment, les choses sensibles, on a besoin de cela. Et ça va se manifester, bien sûr. Alors, en Angleterre, bon, le mouvement méthodiste avec donc, les frères Wesley peut le faire partir de 1739. parce que Charles Wesley, qui est le frère de John, publie en 1739 un recueil de d'hymnes et poèmes sacrés, et un hymne pour Pâques, et cela, c'est pour le premier service de la première chapelle méthodiste de Londres. Donc pour l'inauguration de cette chapelle, en un sens, il y a un recueil qui est fait. Et, d'ailleurs, John Wesley aussi fait paraître, mais il était édité aux États-Unis à ce moment-là, en 1737, une collection de psaumes et hymnes, dans un, on peut dire, dans un style sensible. Alors moi, les Wesley me sont sympathiques parce que il y a un fils, Samuel Wesley, qui était un grand musicien anglais, qui a écrit des pièces d'orgue merveilleuses, qui a écrit des hymnes, des anthèmes. Et il y a un petit-fils, Samuel Sebastian Wesley, qui a aussi été organiste et compositeur. Donc c'était vraiment une famille où la musique était à l'honneur. Alors, le renouveau anglais, parce qu'on peut parler, on pourra parler parallèlement d'un renouveau anglais à partir de 1833 à peu près, et puis d'un réveil francophone, et là c'est en Suisse et en France. Alors le renouveau anglais est marqué donc par ce qu'on appelle le mouvement d'Oxford. Et l'objectif, c'est de ranimer les éléments catholiques de la tradition anglicane tout en maintenant l'indépendance par rapport à Rome. Renouveler le sens de l'adoration et de la vie intérieure. Et alors, ça se traduit par essentialité du rite, très important chez les... notamment, les choristes entrent en procession et sortent au début, à la fin du culte. Le chœur est associé...
Les conseillers presbytéraux aussi, non?
Ah bon? Mais non, ils sortent. Ah oui, mais eux, ils sont déjà assis. Le chœur est associé à l'officiant et non pas à l'assemblée. Donc, ce qui est en fait une certaine façon de reprendre un peu le système catholique. Et importance de l'organiste. Et valorisation du plein chant anglican. Alors, le plein chant anglican, c'est en fait une adaptation du chant grégorien romain comme chant d'assemblée. Alors, c'est pour ça que quelquefois, quand on est de chapelle, l'oratoire prend une pièce anglaise, on me dit après, oh, ça fait catho. Ça peut expliquer pourquoi il y a cette espèce de Bernard Cottret, dans son histoire du. La réforme protestante, dit bien que la réforme anglaise, le protestantisme anglais, est tout à fait à part. Tout à fait à part. Et c'est une... Alors, je citerai quatre noms de musiciens qui ont œuvré pour ce renouveau anglais. Certains dans le domaine, surtout dans le domaine des mélodies, d'invention des mélodies et accompagnement, harmonisation des cantiques. Vous avez William Henry Monk, M-O-N-K. Alors celui-là, vous devez bien le connaître, parce que dans l'Ange et Prière, il y a trois versions de la même mélodie. Reste avec nous, Eventide. Vous connaissez. Il n'y a pas plus beau. Bon, on dira
pas plus triste non plus.
Le 19e, c'est voilà, mes amis pasteurs Georges Philippe qui me dit qu'est-ce que c'est une simplicité. Ça aussi, c'est très très simple et c'est d'une beauté. Bon, on peut être ému par les psaumes, je suis, et par ça aussi. Ça, c'est... Dans Louange et Prière, il y a trois mélodies de André Monk. Bien sûr, ce ne sont pas ces textes, puisque nous avons des textes français. Et vous avez John Bacchus Dykes, trois mélodies aussi. Alors lui, c'est un des promoteurs de la musique pendant dans ce mouvement d'Oxford. Vous avez Charles-Henri Purdey, et celui-là, vous devez le connaître, La foire en vers. Ah, vous connaissez La foire en vers, 278. Et il y a une autre mélodie qu'on trouve dans l'Ange et Prière. Il y a une mélodie de Samuel Sebastian Wesley, donc le petit-fils dont je vous ai parlé de Wesley, aux douces providences du 86. Et dans mon lit, hier soir, je me suis rechanté ces choses-là. Je l'ai regardé devant les prières. Je vous dirais, c'est une très belle anthologie de la musique protestante, cela, au niveau du chant. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Passons maintenant, si vous voulez bien, pour laisser la place après, peut-être à quelques questions ou de la musique encore. Passons maintenant au... Est-ce que je vais foirer ça ? Est-ce que c'est de faire des notes dans tous les sens ? Est-ce que j'ai mis ça ? Oui, le réveil francophone. Des prédications, quelquefois un peu exaltées, du nouveau chant. Alors, les pasteurs, donc, qui vont favoriser, être le... se réveille, c'est les pasteurs Athanase Coquerel. Il n'y a pas un Coquerel alors qui était à l'oratoire ?
Il y en a deux.
Il y en a deux. Un, c'est Athanase. Voilà. Il y a Adolphe Monod, qui lui est mort en 1956. Et il y a Eugène Bercier.
Ah, lui, il est étoile, par contre.
Oui, et il a écrit une liturgie spéciale pour l'étoile, quand il y était. C'est intéressant.
Et Coquerel, il a fait des choses mais...
Je ne pense pas, mais je pense pas. Mais c'est pour dire qu'eux sont promoteurs de ce réveil francophone.
Parce que Coquerel, il était plus contre le réveil, en fait, je pense. Il citait plus la sensibilité libérale. Et oui, par contre, Monod, oui. Alors lui, c'était un farouche pour le réveil. On dirait maintenant un évangélique, en fait.
Oui, mais c'est réveil au sens de l'art oratoire qui est remis sur son piédestal, je pense. C'est pas le réveil au sens du contenu théologique.
D'accord.
Parce que Bercier n'était pas spécialement sur la ligne Monod.
Il y a eu une réforme liturgique un peu avec Bercier. Oui.
Lui, il était assez promoteur des sacrements, par exemple. Il était du genre célébration de la scène tout le temps.
Il était un petit peu anglican sur les bords, donc du coup, il a injecté de l'anglicanisme, oui, dans le...
Ou du...
Il a injecté de l'anglicanisme. D'ailleurs, on voit dans l'étoile, l'architecture même, bon, effectivement, la chaire a été poussée sur le côté. Il y a la croix qui est au centre. Ça, c'est pas réformé. Je crois que c'était plus anglican.
C'est plus anglican d'ailleurs comme architecture, oui, l'étoile, oui.
D'ailleurs, on voit, oui, son architecture, c'est plus anglican, oui.
Bercier disait la chaire est au pied de la table de communion. Ce qui dit bien, effectivement, ce renversement par rapport à la théologie réformée où tout est soumis à la prédication, en fait.
Et alors, en Suisse, pour parler de la Suisse, il y a Alexandre Vinet, qui lui a laissé des textes. Le texte de Roi des Anges, c'est de Vinet.
C'est Vinet.
Ah oui.
Ah, mais je te crois. Alors, c'est ma surprise.
Alors, je vais vous donner un petit conseil. Enfin, vous allez me dire, je vais me faire mettre à la porte de l'entente, mais ça ne va pas. S'il y a une prédication qui vous ennuie, un peu, hein, vous regardez la liste des les auteurs des textes, des cantiques, les compositeurs, les dates, etc.
Mais seulement dans les quatre voies.
Seulement dans les quatre voies. Et c'est vraiment intéressant parce de voir toute la richesse de ce louange et prière, donc qui a été fait première édition, c'est je ne sais plus trop. 39. Juste avant la guerre. De voir qu'il y a des psaumes, ils ne sont pas tous, mais il y en a quand même une bonne partie. Ensuite, il y a les chorales, qui sont mêlées aux cantiques. Mais il y a des chorales. Alors, nous avions eu, la bonne idée de faire un petit livret de chorales luthériens que vous trouvez dans le psautier. Hein. C'était pour ajouter des chorales. Je dis bien ajouter, parce que quand on a chanté des chorales dans ce petit livret, j'ai eu des échos quelquefois. On m'a dit « Oh, qu'est-ce que c'est moche, c'est triste !» Certainement parce que c'était luthérien, peut-être, je ne sais pas. Bon. Mais j'ai dit à ces personnes-là, j'ai dit « Mais vous savez, vous chantez des chorales luthériens, en langue de prière, il y en a, je ne dis pas des tonnes. Donc il ne faut pas dire que... Mais c'est peut-être parce que ce n'était pas dans le recueil. C'était un supplément qu'on... Oh, c'est en rajouté, donc on...
Voilà, c'est suspect.
L'habitude. Voilà. Mais il y a donc beaucoup de chorales luthériennes, avec l'harmonie de Bach, ou là, bon, qui sont dans le... Et puis aussi, il y a ces chants, du réveil francophone, et puis aussi ces mélodies de... méthodistes, en fait, qui viennent de l'Angleterre. Je dis bien seulement les mélodies. Mais donc, c'est un recueil qui est riche, qui était admirablement bien fait. Mais 1939, alors bien sûr, vous allez me dire, les textes, les paroles sont plus possibles. Ben non, on ne prêche plus maintenant comme on prêchait en 1939. Et, voilà. Mais c'est quand même un immense travail qui avait été fait, là. Et surtout, pour élargir tous les donc Calvin, enfin réformés, luthériens et méthodistes, et élargir le champ. Et ça, j'ai toujours été admiratif de cette réalisation.
C'est pour ça qu'on l'a conservé à l'oratoire.
Je pense. Je dirais pas pour. Il y a une autre raison. Mais il y a eu un très bon recueil qui est paru après et qui a vite disparu de la circulation. Et ce recueil n'a jamais été pris à...
Nos feuilles de l'âme encore.
On chante les feuilles de l'âme, avec le cœur de chant.
Oui, alors le problème de nos cœurs, c'est... au niveau des textes, les textes sont bien, d'ailleurs, nous, nos chorales que l'on a pris, on a pris les textes... Bon. Les textes sont bien, mais on a expurgé, enfin on a vidé nos cœurs de chant de tout ce qui était la 19e, et là, c'est pas possible. Parce qu'on a besoin aussi de ces cantiques. On a besoin. Pas de les chanter tout le temps. Mais là, ça a été certainement la raison qui a fait que ce recueil a été...
Et quelle est l'autorité suprême ?
Il n'y a pas d'autorité suprême. Il n'y a pas d'autorité suprême. Il suffit que...
Il suffit... C'est presbytéral ici.
Non, mais je parle aussi au niveau des éditeurs. Parce qu'on s'arrange pour que ça soit épuisé. Et puis comme ça, après, il faudra prendre le recueil qui vient à la suite. Et on ne réédite plus. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Nos cœurs te chantent. Ça a été remplacé par ce que vous savez, c'est-à-dire...
Arc-en-ciel.
Voilà. Qui n'a pas la même qualité musicale que Louange et prière. Je parle musical. Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans une polémique. Là,
ça, c'est louange et prière.
C'est louange et prière. Louange et prière, et vous avez donc... Il y a une partie des psaumes, mais on ne chante plus ces versions-là de psaumes, parce que, bon, il y a une version plus, disons, plus musicologique, c'est le psautier français qu'on utilise. Et c'est très intéressant de voir le nombre de compositeurs et puis les auteurs aussi. Est-ce que vous avez des questions sur... sur ce qu'on a pu dire, là, on pourrait en dire encore.
Est-ce que tu aurais quelques remarques à faire sur la production de chants d'église depuis les années 70? Quel serait, toi, ton point de vue de musicien sur ce qui s'est produit, qu'on trouve dans les recueils de chants arc-en-ciel, Alléluia, où l'orgue peut-être perd un peu de place au profit d'instruments comme la guitare, peut-être, des choses comme ça? Je ne sais pas si tu as un avis sur cette question-là.
Oui, mais il est trop tranché pour que je le donne.
Bah, c'est peut-être là que ça devient intéressant.
Non, parce que là, on va dire, bon, bah, voilà, il faut...
On n'est pas obligé d'adhérer totalement à ce que tu dis. On a besoin de ton expertise.
Enfin, en tant que président de la Fédération Musique et Chant du Protestantisme français, je vous dirais que nous ne sommes pas du tout dans le comité directeur pour ce genre de production.
Oui, mais maintenant, dans un synode ou dans une pastorale, par exemple, moi, personnellement, je connais pratiquement pas les chants. C'est tous des chants qui sont pas de notre répertoire, j'allais dire réformés, luthériens ou méthodistes.
Il y a du tout. Il y a des chants évangéliques aussi. Dans Alléluia, il y a vraiment du tout. Donc, je dirais qu'il y a presque rien.
gens à manger, ça fait grossir ses vies.
Ah oui. Et c'est pas toujours très bon à manger.
Hier soir, en confessant de France, il y avait quand même toutes les bêtes, méthodistes ou baptistes, qui ont chanté des Alléluia, la Marie-Sainte, je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais il faut en tenir compte. Ils sont bien dans le monde protestant, ces gens-là.
Oui, il faut en tenir compte, mais on a le droit, on a le droit d'avoir.
Tout le monde a le droit, mais ce mouvement, il existe.
Bah, il existe, oui. On peut cohabiter, on peut respecter ce qu'ils font, si c'est leur sensibilité. Mais c'est pas parce qu'on respecte qu'on doit prendre ce que les autres font. On n'est pas obligé.
Alors ça se joue sur quel genre de critères ? Est-ce que c'est des critères, je dirais, purement musicaux qui sur l'écriture musicale ?
Ah bah certainement, oui. Certainement. Musicalement, c'est souvent indigent. C'est souvent fait par des gens qui ne connaissent pas ni l'harmonie. Et ben, c'est bon.
C'est un métier quand même, l'harmonie.
Ben, c'est un métier de savoir harmoniser correctement. C'est vrai qu'en mettant des accords, les accords de guitare, c'est facile. Hein. On met l'accord de guitare et puis débrouille-toi. Alors l'accompagnateur, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il met l'accord, mais c'est donc c'est pas... C'est...
Bon,
c'est tout. Je pense qu'on a plus besoin, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de musiciens professionnels, on n'a plus besoin d'organistes professionnels, on n'a qu'à dire aux...
Il y a deux ans, en protestant au fait, j'ai participé aux répétitions, il y avait énormément de ce style de...
Oui, ben oui.
Et il y avait 3000 personnes...
Oui, d'accord, d'accord. Ben moi j'ai bien réfléchi depuis longtemps, mais c'est on peut très bien pour ce type de manifestation qui n'arrive quand même pas tous les dimanches, on peut très bien là se dire bon on va faire des concessions.
D'autant qu'il n'y a pas d'orgue à Bercy, à l'Arena.
Et je suis pas sûr que les gens qui les paroisses ou les évangéliques qui aiment ce aimeraient chanter nos psaumes. Ben, ils aiment, c'est pas leur culture, c'est pas leur tempérament. Bon, on peut pas leur en vouloir. Bon, c'est comme ça. Mais moi, j'entends souvent dire, oh, ben, les psaumes, c'est vieux, mais c'est d'une jeunesse au niveau mélodique. On ne fera pas mieux. On peut pas faire mieux au niveau mélodique. On ne peut pas faire mieux. Ben oui, mais donc il ne faut pas dire il faut faire de la musique pour que tout le monde, pour attirer les jeunes. Ça n'a jamais attiré les jeunes. Moi, je sais, j'ai pu discuter avec des jeunes dans l'oratoire. Eh bien, c'est pas tellement de la musique avec guitare et ça qu'ils veulent. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'avant, j'étais dans une paroisse à Nancy, en fait, où c'était très pluraliste. C'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup d'évangéliques dans la paroisse réformée. Il y avait des luthériens pontains et puis il y avait des réformés de chez réformés. Eh bien, les enfants, on leur fait chanter, c'est-à-dire qu'on, dans un culte de jeunesse, on mettait quatre chants du répertoire évangélique et deux chants du répertoire luthéro-réformé. Ben, le cantique qu'ils préféraient, c'était quoi ? C'était le 417, Debout Saint-Decor.
Ben oui.
Et on n'y peut rien, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a Evo et voilà. Et donc les psaumes, c'est pareil. Si on les prend un peu plus vite à un autre, c'est aussi question de tempo. La musique, de variété est souvent à un tempo beaucoup plus rapide. C'est aussi question de tempo. Si on augmente un peu le tempo, les enfants, même pétris de culture de variété et de... Bon, ben,
c'est en tout cas pas la musique avec beaucoup de syncope qui à mon avis peut convenir.
Moi j'ai fait chanter les enfants d'école le dimanche et les psaumes, les chorales, ils sont aussi contents, hein. Donc suivant ce qu'on leur donne, voilà, ils s'habituent petit.
Est-il encore une question ou l'autre ? Parce qu'on arrive en fait au bout de notre séquence, oui, Catherine.
Quelle est l'influence de Thésée en France?
Il ne vient pas de la
Il y avait un excellent compositeur qui s'appelait Jacques Berthier, qui a écrit de très belles choses quand il était relativement jeune. Et après, il a fait tout un répertoire pour Thésée, qui malheureusement n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il avait pu écrire comme musique avant. Et voilà, c'est un peu triste. Enfin bon, est-ce que l'art doit être au service de la liturgie? On peut se poser la question. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'art pour la liturgie. Pour moi, une musique syncopée et mal harmonisée, ce n'est pas de l'art, hein, je suis désolé.
Mais il y a des chants de Thésée qui fonctionnent très bien et qui sont dans les mouvements de jeunesse, en fait, hein, qui fonctionnent quand même très très bien, effectivement, et aident à prier, si je peux dire. Et donc ces chants-là sont connus dans les mouvements de jeunesse protestantes sont utilisés, en particulier dans des rencontres œcuméniques, par exemple, où il y a tous ces chants, je dirais, sont communs aux catholiques et aux protestants.
Mais bon, on ne va pas parler trop longtemps de ce sujet, parce que ça serait...
Tu veux nous faire écouter une dernière chose?
Oui, mais simplement, je voulais dire qu'il y a quand même des chorales de Bach, enfin des chorales harmonisées par Bach, qui sont superbes et que les catholiques ont dans leur recueil de cantiques, et nous aussi. Alors, peut-être que c'est quand même le grand Bach qui pourrait nous réunir à ce moment-là, plutôt que des choses syncopées, mal harmonisées. Hein, quand on a eu certains cultes, on a pris. On s'est aperçu qu'il y avait des chorales, qu'on pouvait chanter un choral de Bach.
Donc tu nous as fait une petite liste de chants qui sont communs.
Les correspondances.
Des correspondances, c'est très précieux. Parce que
il y en a. Et comme ça, on peut.
Il y a deux psaumes, il y a deux, trois psaumes.
Il y a deux, trois psaumes avec des paroles différentes pour les catholiques, mais c'est pas gênant. Et puis, il y a un certain nombre de chorales. Et ben ça, on peut les prendre pour être unis. Ça fait déjà ça. Alors, bien sûr, s'il faut guitare à syncope et accord de guitare, alors là, c'est autre chose. À ce moment-là, moi, je joue pas. Parce que je ne suis pas utile.
Pour l'instant, l'IRCAM ne s'est pas encore attaqué au psaume.
Oh, c'est trop facile pour l'IRCAM. Bon, je voudrais vous faire entendre pour terminer. Bon, vous dites que j'ai écrit quelques psaumes pour orgue. J'ai réuni dans une suite qui s'appelle Suite française. Et je voudrais faire entendre donc mon psaume, pardon, 92, introduction à cornes jaunes. Et c'est joué par mon collègue et grand ami Kurt Luders, qui est un musicien admirable, qui est au Temple du Saint-Esprit. Voilà, donc on va terminer sur le psaume 92, dans ma paraphrase musicale. Et donc c'est joué par Luders.
C'est quelle page?
2, 3, pas 2.
Alors, si on a une page de publicité sur le site, il y a une anthologie de la musique d'orgue que Jean-Dominique a fait. Il y a quoi? Il y a une vingtaine presque de.
Oui, et ça part de la Renaissance jusqu'à nos jours.
Jusqu'à nos jours, et ça vaut le coup.
Et surtout sur des psaumes et des chorales. J'ai plutôt axé sur.
Thank you.
Donc je terminerai en disant « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur !» Voilà, c'est un de mes psaumes préférés.